franceinter.fr.
Coco,
hey, viens là.
C'est l'Afrique qui frappe à la porte.
L'Afrique enchantée.
Oh yeah.
Vladimir Cagnolari, Soro Solo.
Yeah.
Tous les dimanches, de 17h à 18h, sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans votre Afrique enchantée.
Aujourd'hui, on se souvient du capitaine Thomas Sankara, président disparu du Burkina. Pourquoi ? Parce que dans ce monde où plus personne ne croit en la politique, il est bon de se rappeler que, venu d'un tout petit pays enclavé, un capitaine culotté nous a tous fait rêver.
Très cher Soro Solo.
Ouais.
Toi qui te méfies, faut bien le dire, des militaires un peu comme le lièvre d'une horde de chasseurs, comment vas-tu aujourd'hui?
Je vais très bien.
Mm-hmm.
Mais je tiens ici à faire une mise au point.
Mm-hmm.
Il y a militaire et militaire. Oui, comme le disait Sankara, lui-même capitaine,
mm-hmm.
un militaire sans formation politique, c'est un criminel.
Wallahi.
Hein? En Afrique et ailleurs, combien de militaires ont contribué à exploiter leur peuple?
Ça, en tout cas, tu dis la vérité. Mais j'en entends déjà qui disent « Oui, mais enfin, si les militaires commencent à réfléchir et à discuter les ordres, mais où va-t-on ?»
On va dans le bon sens. Vlad,
ouais.
Toi-même, tu me connais, non? Moi et les uniformes, on n'est pas du tout copains.
Ça.
Mais pour parler de Sankara, on se demande si son uniforme n'était pas un costume de scène. Oui, s'il n'avait pas été militaire, il aurait sans doute été musicien professionnel.
Ouais, ça, c'est vrai.
Il adorait la guitare. Et dans l'armée, il avait créé son propre groupe, le Missile Band.
Le Missile Band, ça ne s'invente pas. Ah, si Sankara avait fait de la musique, il serait peut-être encore de ce monde. Mais bon, il a fait président. Un président, c'est vrai, comme on n'en avait jamais vu. Un président qui, lors de sa prise de fonction, avait dû déclarer son patrimoine en ces termes. Je possède également trois guitares sèches.
Yes.
Et je les cite parce que je leur attribue beaucoup de valeur.
Hey, Sankara, c'est toi qui avais de la valeur. We heard about Sankara. Avec le français fixé, le Jamaïcain Winston McAnuff chantait Sankara, une figure dont on a entendu parler jusque dans les Caraïbes. Thomas Sankara, le capitaine qui présida le Burkina Faso de 1983 à 1987, est devenu un symbole. Symbole d'émancipation africaine, de la tutelle des grandes puissances. Symbole de la capacité des peuples opprimés à relever la tête et puis, tout simplement, un symbole de liberté.
Ouais, le symbole a survécu, même si l'homme, lui, est mort, hein, mort assassiné, il y a 27 ans, presque jour pour jour, c'était le 15 octobre 1987. Sankara n'avait pas encore 38 ans. Cette semaine, de nombreux hommages vont lui être rendus, que ce soit à Ouagadougou, la capitale du Burkina, et à Paris, eh bien nous, on lui consacre une émission. Et tu parlais de symbole, Solo, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on peut voir au Burkina, mais aussi ailleurs en Afrique de l'Ouest, un peu partout, des autocollants à l'effigie de Thomas Sankara, Tom Sank, avec son béret rouge vissé sur la tête.
Thomas Sankara, c'est l'équivalent africain de Che Guevara. Et tout autant que le Che, il est devenu une icône qui continue d'inspirer la jeunesse. Et ça ne peut pas lui faire de mal à la jeunesse, vu l'état de nos pays et de nos dirigeants. Mmh. Allez, nous aussi, pour nous souvenir de cette comète
oui.
qui a traversé le ciel africain, retour quelques années en arrière. Nous sommes le 4 août 1983.
France Inter, il est 22h. L'ordre règne à Ouagadougou, capitale de la Haute-Volta, après le coup d'État de la nuit dernière. C'est un para de 34 ans, le capitaine Thomas Sankara, qui a pris le pouvoir et renversé l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Écoutez le capitaine Thomas Sankara lancer son appel au peuple sur les ondes de Radio Ouagadougou.
Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, les soldats, sous-officiers et officiers de l'armée nationale et des forces paramilitaires se sont vus obligés d'intervenir dans la conduite des affaires de l'État pour rendre à notre pays son indépendance et sa liberté et à notre peuple sa dignité. Le mouvement actuel des forces armées voltaïques, tirant les amères leçons de l'expérience du CSP, a constitué ce jour 4 août 1983 le Conseil national de la Révolution, CNR, qui assume désormais le pouvoir d'État. Le Conseil national de la Révolution invite le peuple voltaïque à constituer partout des comités de défense de la Révolution pour participer à la grande lutte patriotique du CNR. Il va sans dire que les partis politiques sont dissous. Peuple de Haute-Volta, tous en avant avec le CNR pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, c'était Thomas Sankara lors de sa première déclaration à la radio, celle qu'on fait de manière intraditionnelle le jour même du coup d'État. Faut dire qu'en Haute-Volta, c'était le nom du pays à l'époque, on était habitué au coup d'État, hein, puisque ce coup d'État-là, c'était le troisième coup d'État militaire en trois ans. En tout cas, en ce 4 août 1983, le CNR, Conseil National de la Révolution, est né et Sankara, qui en prend la tête, devient président donc de la Haute-Volta. Vieux père Solo, est-ce que tu te souviens, toi, de cette époque? En Côte d'Ivoire à l'époque.
Et comment Moi, comme tous ceux de ma génération, on a été séduits par ces jeunes capitaines. Parce que, vu de Côte d'Ivoire, la Haute-Volta est alors perçue comme un pays pauvre, dévalué, tout juste bon à envoyer de la main-d'œuvre dans les plantations ivoiriennes. Mmh. Mais c'est de ce petit pays enclavé-là que venait ce fringant capitaine. Et ses discours anticolonialistes faisaient mouche chez nous. Les gens de ma génération, tous les gars de ma génération, on applaudissait des quatre mains. Sankara n'avait pas peur. Il était aux antipodes de nos dirigeants marionnettes qui s'éternisaient au pouvoir.
Ouais, pour compléter le tableau de cette époque, en ce milieu donc des années 80, l'Afrique est plongée dans une crise économique sans précédent.
Hey! Le prix de toutes les matières premières que le continent exporte chute de façon vertigineuse. On en a parlé la semaine dernière d'ailleurs. Mmh. Le coton du Burkina Faso, le café, le cacao du Cameroun, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, rien ne se vend au juste prix. Mmh. Les équilibres macroéconomiques se rompent. Déficit budgétaire, endettement étouffant, inflation galopante et déficit commercial chronique.
N'en jetez plus.
Pire, le service de la dette extérieure du continent est plus élevé que la dette elle-même. Et depuis le début de cette décennie, pour rembourser les prêteurs occidentaux, la Banque mondiale et le FMI imposent aux États africains ses plans d'ajustement structurel.
C'est donc dans ce contexte que Sankara et ses compagnons prennent le pouvoir. Face aux problèmes économiques et à la mainmise des anciennes puissances coloniales sur le continent, Sankara propose un nouveau départ, une seconde indépendance pour son pays et même pour l'Afrique tout entière. Un an après son arrivée, il débaptise son pays, la Haute-Volta, non coloniale, et le rebaptise Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Intègre, oui, mais toujours dépendant.
Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin.
Mais Sankara a raison, son discours reste absolument d'actualité 30 ans après. Oui, la situation alimentaire aujourd'hui dans nos pays est juste aberrante. Il y a assez de terres fertiles pour nourrir les populations du continent. Mais on continue d'importer de Chine ou d'Inde des céréales de base comme le riz.
Ouais, bah justement, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, 40% de la consommation de riz est importée et il y en a pour plus de 2 milliards de dollars.
À la fin des années 70, la production de riz de la Côte d'Ivoire, par exemple, mon pays, elle couvrait totalement les besoins nationaux. Mais l'inorganisation, comme disait Sankara, l'inorganisation de la filière et l'importation déloyale du riz a durement affecté là aussi les petits producteurs de riz.
Ben justement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dont tu parlais, importe 900 000 tonnes de riz par an de Thaïlande, de Vietnam ou de Chine.
Et dans l'élevage, c'est la même chanson. La quasi-totalité des pays africains ont des plaines propices à l'élevage de volailles, de caprins ou de bovins. Mais partout, on continue d'importer de la volaille et de la viande congelée moins chère, quitte à sinistrer la production locale, comme ce fut le cas au Cameroun, par exemple.
Ouais, et en tout cas, ce qui est vrai pour se nourrir est forcément aussi vrai pour se vêtir. À toi, Thomas.
Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Écoutez ça, c'est l'Afrique enchantée et c'est sur France Inter.
Et chers auditeurs de France Inter, vous l'avez entendu, Thomas Sankara ne manquait pas d'humour. Mais sérieusement, il était très sensible à la question de la cotonculture. Le coton fait partie des trois premiers produits d'exportation de son pays, le Burkina Faso. Et si rien que les forces armées des États africains n'étaient plus habillées de treillis commandés à l'étranger et qu'elles portaient des tenues faites de coton produit sur place, rien que ça développerait tout un secteur. Voyez-vous-même les forces armées du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal. C'est déjà plusieurs dizaines de milliers d'uniformes à fournir.
Ouais, puis on pourra en profiter pour changer un peu les motifs.
Voilà, et on a vu développer un secteur, on a vu un exemple dans mon pays encore, la Côte d'Ivoire, qui a développé et organisé le secteur de l'artisanat du tissage de coton et a diversifié la production des tisserands de ce village qui est à quelques kilomètres de Korogo, Waranyene. Eh bien, en moins de 10 ans, cette politique-là, non seulement elle a stoppé l'exode rural de ce village, mais on a vu même des jeunes qui étaient partis à l'aventure revenir au village parce que le travail du coton leur permettait de vivre décemment. Mmh. Mieux, on a assisté donc au retour de ces jeunes au village. Et au Burkina, Thomas Sankara, toujours dans cette politique, lance le label Faso Danfani, ce qui veut dire la toile tissée de la mère patrie. Mmh. Il crée une usine de tissage du coton national et incite tous les fonctionnaires du Burkina à porter le Faso Danfani, un habit traditionnel fabriqué avec le coton national.
Mais oui, avec tous les fonctionnaires, déjà, ça faisait un marché en tout cas.
Oui.
Sankara en avait assez de la coopération et des fameux assistants techniques venus aider les pauvres Africains tout en fourguant la marchandise venue de chez eux. D'autant que souvent, ces assistants-là ne comprenaient pas forcément les populations, ne connaissaient pas leur culture, et c'est aussi pour ça que Sankara défendait la culture nationale et pour tous, et notamment le cinéma. Hein. Le cinéma, Sankara voulait qu'il soit capable d'offrir un miroir africain aux Africains pour pas que les Africains ne se voient que dans les yeux des autres. En tout cas, en matière de culture aussi, disait-il, commençons par produire ce dont nous avons besoin et consommer ce que nous produisons.
Babe Congo Sirala, Tamala, Telekoro Baba Veta, Seneca, Telekoro Teleye Babaka, Wolo Wolo Ye Babaka Dabano Bebo Baba Bolola, Bingon Fe Fana Ye Babaka Baba Nikongo, Baba Nikongo, Baba ni Congo, Baba ni Congo. Chaque jour à la télé, j'entends que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère, nos parents meurent dans la misère. J'entends la radio. Le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère. Nos parents meurent dans la galère. Sénégal, Bénékenga, Abidjanfa, Olu, Djeta, Congo, la Abada. Mais Maloka, Dionya, Barana, Fananka, Dionya. Sénégal, Bénékenga, gouvernement, Fa, Olu, Djeta, Congo, la Abada. Me llaman a Urbe y Wolulebo. Aluma y Baba Segela. Aluma y Baba Torala. Baba ni Congo. Baba ni Congo. Baba ni Congo. Añanda tu alama. Ala benazina de man. Añanda tu alama. Ala benazina de man.
Eh, hey, Baba ni Congo, papa, bienvenue du champ. Tchiken rend hommage à tous les agriculteurs et dénonce surtout la démagogie de ces gouvernants qui clament à la radio et à la télé que le succès du pays se repose sur l'agriculture. Mais ils ne font rien pour développer cette agriculture et ils accaparent toute la fortune du pays.
Voilà, Tikon Jaffa Coli sur France Inter. En tout cas, vous l'avez compris, Thomas Sankara avait les idées claires, il était aussi très bon orateur, mais il était là, pas seulement pour parler, mais aussi pour mettre tout ça en pratique, à commencer par lui-même et ses collaborateurs. C'est ainsi que, quand il arrive à la présidence, mm-hmm. il commence par réduire le train de vie de l'État, comment, notamment les fameuses voitures chères, emblématiques des hommes de pouvoir un peu partout dans le monde. Hein. Sankara, lui, en guise de limousine, il avait sa Peugeot 205.
Comment?
D'ailleurs, on l'appelait la 205 présidentielle.
Voilà.
Comme ça, ça top quand même. Et il la conduisait d'ailleurs souvent lui-même. Ouais. Et puis, il avait institué la journée de sport pour tous, un jour par semaine. On a tous les fonctionnaires, voilà, les gars des ministères, tout le monde, tout le pays devait participer. Lui aussi d'ailleurs accompagnait tout ça. Sur place, dans les villages, il avait ce qu'on a appelé, il y en a eu beaucoup au Burkina, les CDR, les comités de défense de la révolution, qui étaient des cellules locales chargées justement de mettre en pratique ses idées jusqu'au fin fond des brousses. Bon, pas toujours avec succès, ça on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a eu par exemple le lancement de constructions d'écoles construites par les villageois eux-mêmes. Enfin, ça a été vraiment mis en pratique.
Et pareil pour la santé, il fait construire partout des postes de santé primaire, des dépôts de produits pharmaceutiques et des cases villageoises de santé poussent à travers tout le pays. Mmh. Et il impressionne le monde entier avec son opération vaccination commando.
Plus de
plus de 2 millions d'enfants sont vaccinés en 15 jours. L'OMS est bluffée.
Yeah.
Ouais. Idem avec la vaste campagne de reboisement qui a fait plus de 10 millions d'arbres plantés en 4 ans.
En tout cas, avec cette idée en tout cas, qu'avait Sankara, que toute action économique devait avoir son volet écologique. C'était très précurseur pour l'époque, qui plus est en Afrique. En tout cas, l'un des domaines dans lesquels Sankara était sans doute le plus en avance sur son temps, et sur notre temps aujourd'hui, je devrais dire, c'est celui de la condition féminine. Oui,
ah ouais.
Sankara était un féministe, un président féministe.
L'impérialisme, les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrouille, la mort.
Les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque, cela ne va pas sans grand mal. Parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer aussi à nos formes, à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme. Et pour cela, nous pensons qu'il nous faut nous attaquer à certaines mutilations, notamment les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, pour nous, sont une façon d'amoindrir la femme, sont une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité permanente.
14 heures de travail quotidien, une espérance de vie de 32 ans. La femme africaine fournit près de 80% du travail agricole, ainsi que la moitié des prestations nécessaires à l'alimentation. Ces femmes s'occupent tout à la fois des enfants, du ménage, du ramassage de bois, de l'eau à chercher à des kilomètres de distance, de la nourriture de la famille, du champ du mari et de leur champ personnel. Nous sommes bien loin de l'image d'Épinal, de la joie de vivre dans la brousse.
Nous avons pris des mesures pour montrer que nous accordons cette importance à la femme. Épanouissement du couple égale épanouissement familial égale essor national. Eh bien, nous avons imposé que le marché soit fermé aux femmes. Seules les vendeuses y avaient accès. Et les hommes qui voulaient que les repas soient à point pour le déjeuner, pour le dîner, eh bien, ils devaient eux-mêmes faire le marché.
Peu d'argent en Burkina Faso, mais des idées. Après la semaine de la femme, la journée du marché obligatoire pour l'homme et la charte de la famille, la télévision locale lance les colombes de la révolution. Pourvu que le gouvernement ne les laisse pas tomber.
Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie.
Voilà, ça c'était un extrait du film Capitaine Thomas Sankara, un documentaire signé Christophe Cuplin, qui est sorti en Suisse en septembre dernier et qui sortira, on l'espère, courant 2015 en France. Un film d'1h30 exclusivement composé d'archives qu'il fait bon voir, revoir ou découvrir si on ne les connaissait pas du tout. En tout cas, Jean-Philippe Verret, notre beau-frère, vous a mis tous les liens utiles sur la page web du site France Inter, page L'Afrique Enchantée.
Oui, dans le film, on voit des femmes sur des motos qui font une course. Mmh. Leur banderole affiche « Le mototourisme, c'est aussi pour les femmes ».
Voilà.
C'est anecdotique peut-être, mais cette question de la place de la femme lui tenait réellement à cœur. Il y a eu ainsi 3 femmes ministres dans son gouvernement, dont la ministre du budget. Sankara voulait choquer. Il voulait même mettre en place le débit à la source d'un tiers du salaire du mari pour le reverser à la femme au cas où le dit mari n'assumerait pas ses devoirs et gaspillerait l'argent en boissons et en entretien de maîtresse.
Ouais.
Les maris pourris, à bas. Les maris paresseux, à bas.
C'est vrai. C'était des vrais slogans, ça. Ouais. En tout cas, Sankara, vous l'avez compris, voulait bouleverser sa propre société, mais aussi à l'extérieur, changer le cours des relations que son pays et le reste de l'Afrique entretenait avec les grandes puissances, au premier rang desquelles bien sûr la France, qui avait colonisé le Burkina, mais aussi la plupart des pays voisins. Bref, Sankara voulait mettre un terme à ce qu'on n'appelait pas encore la France-Afrique.
Afrique, si t'as Afrique, pas le benga, t'as pas la baraka. Afrique des terres ancestrales et ensoleillées.
T'as pas le benga, t'as pas la baraka.
Afrique au destin, mûri par les politiques, aux discours sans fin. Afrique, pauvre Afrique.
Ah ça ira, ça ira, ça ira. Or ça va pas, ça va pas, ça va pas. France, Afrique, c'est vice et versa. Tire, les assassins s'enfilent et les victimes s'entassent.
T'as pas le benga, t'as pas la baraka.
Ah ça ira, ça ira, ça ira. Or ça va pas, ça va pas, ça va pas. France, Afrique, c'est vice et versa. Tire, les assassins s'épilent et les victimes s'effacent.
Libérer ma liberté, légaliser l'égalité pour la fraternité. Ainsi ressasser le passé, pourtant c'est passé, on veut encore nous effacer. Exploiter la misère à la finalité, ça peut rapporter, mais c'est pas assez. Aggraver les fossés entre les pauvres et les riches, exporter la précarité. Oublier l'humanité, handicapé, VD, c'est ça, pays développé, à part tes sursauts de fierté. Qu'est-ce qui te reste? Hey, t'as plus que l'ombre de ta dignité.
Ah ça ira, ça ira, ça ira. Or ça va pas, ça va pas, ça va pas. France, Afrique, c'est vice et versa. Tire, les assassins s'enfilent et les victimes s'entassent.
T'as pas le benga, t'as pas la baraka.
Ah ça ira, ça ira, ça ira. Or ça va pas, ça va pas, ça va pas. France, Afrique, c'est vice et versa. Tire, les assassins s'épilent et les victimes s'effacent.
Putsch, coup d'état remplacé par des coups d'éclat. Passage en force aux élections truquées, soutenu par les pays, pas pour mon pays. Consommer, privatiser, moi je le sais. Demande à l'OMC, ils te diront que c'est pour te récompenser.
Oh grand-mère, que vous avez de grandes dents.
C'est pour mieux te manger, mon enfant.
Le thème à la mode, c'est bonne gouvernance. Ça veut dire que la France,
elle est bien gouvernée.
Je suis sage, à ma place, assis sur ma chaise. Je ne bouge plus, monsieur l'instituteur.
Vraiment, ça va pas.
Ouais, qu'est-ce que tu crois, gars?
Ah ouais, ça c'est vrai, hein.
Vraiment, ça va pas.
C'est ainsi, c'est comme ça, hein.
C'est clair.
Vraiment, ça va pas.
Si t'as pas le benga, t'as pas la baraka.
La justice qu'elle te parle.
Vraiment, ça va pas.
T'as pas le benga, t'as pas la baraka.
Vraiment, ça va pas.
Si t'as pas le benga, t'as pas la baraka.
Ah ça ira, ça ira, ça ira. Or ça va pas, ça va pas, ça va pas. France, Afrique, c'est vice et versa. Tire, les assassins s'enfilent et les victimes s'entassent.
T'as pas le benga, t'as pas la baraka.
Ah ça ira, ça ira, ça ira. Or ça va pas, ça va pas. France, Afrique, c'est vice et versa. Tire, les assassins s'épilent et les victimes s'effacent.
Vraiment, ça va pas.
Vous écoutez France Inter et c'est l'Afrique enchantée. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, chantait le rappeur burkinabé Smokey plus de 2 siècles après les sans-culottes français. Mais question révolution, Thomas Sankara valait bien les sans-culottes au point de rappeler aux dirigeants français les valeurs fondatrices de la République. Ça, on l'entendra tout à l'heure. Oui, parce que si vous nous rejoignez, c'est bien de ce fringant capitaine, président du Burkina Faso de 1983 à 87, dont on parle aujourd'hui dans l'Afrique enchantée.
Oui, c'est sûr.
ce militaire, simple capitaine qui plus est, qui débarque pistolet à la ceinture dans les sommets des chefs d'État, fait forcément impression.
Ça.
On le remarque dès le sommet de Vittel en octobre 83.
Un sommet France-Afrique, oui, aujourd'hui on dit Afrique-France pour faire moins louche, parce que France-Afrique, ça colle aux semelles. Un sommet France-Afrique, donc, où son franc-parler détonne, et ça, évidemment, ça attire les journalistes tout le temps, qu'à l'époque, Sankara n'hésite pas à critiquer l'ancienne puissance coloniale, comme il le fera toujours, sans détour, tout au long de sa présidence.
La politique africaine de la France, la trouvant très française.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant éventuel, soit pour débarquer d'une caravelle un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi.
Et cette manière de faire la pluie et le beau temps en Afrique, de faire et de défaire les régimes au gré de ses intérêts, c'est tout ça qu'on appellera plus tard France-Afrique.
Voilà.
Sankara a évidemment raison de la dénoncer. Les plus clairvoyants se doutaient qu'avec une telle bouche, une telle grande gueule, il ne ferait pas de vieux os au pouvoir.
En tout cas, en France, les journalistes le présentent le plus souvent comme un soutien, sinon un suppôt, du colonel Kadhafi. Or, à cette époque, la France se bat militairement contre Kadhafi, hein, puisqu'elle soutient le Tchad dans le conflit frontalier qui l'oppose à la Libye. Donc, associer Sankara à Kadhafi, c'est déjà gâter son nom.
Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Certes, Sankara ne crache pas sur Kadhafi, loin de là. Mais il a sa manière de le provoquer et surtout de le prendre au mot. Oui, à l'époque, Kadhafi a déjà des velléités d'hégémonie africaine. Il ne se fait pas encore appeler le roi des rois d'Afrique. Ça, ce sera à la fin de sa carrière.
Ouais.
Mais il parraine volontiers tous les rebelles.
Ouais, dans le film Capitaine Thomas Sankara, hein, de Christophe Kuplin, dont on a parlé, Sankara, notamment, pique un jour où Kadhafi le visite à Ouagadougou, il pique l'Alfa Romeo de Kadhafi, bardé de gadgets pour aller faire un tour. Et puis aussi, il y a même un jour où il immobilise un des avions de la compagnie nationale libyenne sur le tarmac à Ouagadougou, en espérant trouver un pilote burkinabé qui puisse le piloter. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il avait dit, bon, Kadhafi, tu n'arrêtes pas de dire que tu vas nous aider, mais puisque tu ne nous aides pas, bon, on va se servir d'abord. Donc, l'appareil est resté une semaine sur le tarmac de Ouagadougou. Où il a fallu que Kadhafi le déclare volé pour qu'il ne puisse plus de toute façon atterrir ailleurs. Et finalement, la question s'est réglée.
Vraiment, capitaine, là, il s'en fout de quelqu'un. On va donc dire que Sankara est aussi fort, donc. Sinon, plus fort en provoque que Kadhafi.
Oui.
Sankara est idéologiquement beaucoup plus proche de la révolution cubaine, Fidel Castro et bien sûr le Che. Et c'est d'ailleurs de là que provient le slogan numéro 1 de la révolution sankariste, la patrie ou la mort, nous vaincrons. D'ailleurs, Cuba accueillera plusieurs dizaines de jeunes burkinabés pour se former dans les écoles et ses universités. Cours de philosophie marxiste-léniniste, pensée de Fidel et de Che, travaux champêtres et même maniement de grenades. On peut le dire, Cuba, la rouge, est le phare du socialisme tropical.
Ouais, or en France aussi, ancienne puissance de tutelle, le pouvoir est aux mains d'un socialiste. Oui, il s'appelle François Mitterrand et son élection en mai 81 avait suscité beaucoup d'espoir chez tous ceux qui, en Afrique, aspiraient à la fin des régimes de partis uniques et surtout attendaient vraiment la refondation de la relation entre l'Afrique et l'Occident. Au milieu des années 80, ils sont donc beaucoup à avoir déchanté. Oui, parce que Mitterrand est socialiste, Sankara va se montrer avec lui beaucoup plus exigeant qu'il ne l'aurait été avec n'importe quel autre des dirigeants français.
Un petit capitaine exigeant ? Exigeant par rapport à Mitterrand ? Mais c'est du jamais vu ! Mitterrand connaît l'impétuosité de Sankara dont il apprécie malgré tout le volontarisme. Et c'est ainsi qu'il accepte l'invitation du capitaine au Burkina Faso. Nous sommes en novembre 1986. Une semaine auparavant, malgré la pression internationale croissante sur le régime de l'apartheid, la France a reçu le président sud-africain Pieter Botha.
François Mitterrand achève sa tournée en Afrique hier à Ouagadougou. Le président de la République a été accueilli au cri de « Bonjour tonton ». Il faut dire qu'il visitait avec son épouse une garderie d'enfants. Jean-Michel Mercurol.
Certes, des entretiens politiques en tête-à-tête se sont déroulés à Ouagadougou, mais c'est surtout le contact personnel entre les deux hommes qui a été mis en avant et qui a pris parfois un tour un peu surprenant.
Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes emporteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours.
Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience.
Il faut voir le visage de François Mitterrand se décomposer pendant que Sankara est en train de le tancer. Il s'en tire quand même par une pirouette.
Oui.
Mais la pilule fut certainement amère et le souvenir de cette visite aussi. Fin 86, Mitterrand vit la cohabitation et s'apprête à se présenter pour un second mandat. À Sankara, il reste 11 mois à vivre.
8 mois plus tard, Sankara est à Addis Abeba, siège de l'Organisation d'Unité Africaine, et tous les chefs d'État sont là présents et désormais le connaissent bien. Le capitaine, ce jour-là, a troqué son treillis contre un simple costume de coton, le fameux Faso d'Amfani, hein, le coton national produit, tissé, cousu au Burkina.
Le 29 juillet 1987, Sankara prend la parole à la tribune. Il s'adresse au chef d'État et à celui qui préside leur assemblée, Kenneth Kaunda, président de la Zambie. Ce discours va faire date. Il est toujours actuel. C'est un discours sur la dette, un discours qui a sûrement précipité sa perte.
On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait point de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué. Ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue.
Madame Afrique, qu'est-ce que vous avez maigri? Asseyez-vous, je suis le docteur Banque Mondiale. Je vous présente mon associé, le docteur FMI. Vous inquiétez pas, on ne vous fera aucun mal. On a enfin trouvé le médicament pour soigner et guérir votre maladie. Un comprimé dépasse tous les jours pendant 5 ans. Je vous assure, l'effet est garanti. Madame Afrique s'en va rassurer, contente de savoir que les choses vont changer. Mais dès le premier cachet avalé, les effets secondaires n'ont pas tardé. Licenciement, privatisation, suivi des pauvretés, soulèvement populaire, bonjour l'instabilité. Ils nous donnent de la main droite, cœur peint de la main gauche, pendant que la misère, la faim et la maladie nous fauchent. La Banque mondiale, eux, elle fait missionner pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, eux, elle fait missionner pour distribuer des cadeaux empoisonnés.
Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique.
On ne peut pas demander à la fois à quelqu'un de courir et de se gratter les fesses. On demande au sud de serrer la ceinture pour que le nord puisse porter ses bretelles. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés.
Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont.
Oui, si le Burkina Faso refuse tout seul de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence et, de fait, Sankara n'y assistera pas. Il n'aura même pas le temps de ne pas payer la dette. Il faut dire qu'en 4 années de pouvoir, solo, Sankara s'était fait beaucoup d'ennemis.
Oui, les gouvernements occidentaux et les institutions financières s'entendaient bien pour tenir l'Afrique par la dette. Ça. Donc son discours ne pouvait pas leur plaire du tout. Ce fameux discours vient d'être publié d'ailleurs aux éditions élitistes. Ouais. Il y avait aussi les dirigeants africains qui n'aimaient pas du tout ce trublion qui contrastait trop avec leur accaparement du pouvoir et des richesses.
Mais tu m'étonnes rouler en 205.
Comment ? Oufuette Boigny de Côte d'Ivoire en tête de liste qui détestait les militaires.
À l'intérieur du Burkina, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient contre Sankara. Il faut dire que sa révolution avait connu un certain nombre de dérives. Il y avait d'abord les errements des CDR, hein, les fameux comités de défense de la révolution qu'on trouvait un peu partout. Bah, comme souvent dans ces cas-là, c'était l'occasion à des petits chefaillons de se livrer à des abus de pouvoir, à des règlements de compte. Et c'est comme ça que par exemple, on a brûlé complètement la bibliothèque de Joseph Kizerbo, un grand historien burkinabé qu'on avait décrété contre-révolutionnaire. Idem avec les tribunaux populaires, on connaît ce genre de dérive. Il y a eu, on appelait ça dégager, le dégagement d'un millier de profs contre-révolutionnaires dans ce pays qui en manquait tant. Et puis il y avait ces fameux slogans, hein, les maris pourris, on en a parlé. Il y avait aussi les hiboux au regard gluant, tout ça hein, pour jeter l'anathème. Voilà, c'était des fois une politique d'anathème qui n'était pas toujours terrible.
Mais il faut reconnaître que Sankara, il a péché aussi parce qu'il bousculait tout et de façon frontale, et surtout les traditions. Par exemple, il a retiré les pouvoirs féodaux et leurs privilèges aux chefs traditionnels, notamment le Moronamba, le roi dieu des Mossi, qui n'avait dorénavant plus la gestion des terres.
Et puis il y a eu bien sûr, hein, pour précipiter la chute de Sankara, de bonnes volontés extérieures. La France, la Côte d'Ivoire, qui vont soutenir les ennemis intérieurs de Sankara, en particulier ceux qui sont tout autour de lui. Par exemple, on l'avait mis en garde contre Blaise Compaoré, son bras droit, son jumeau. Sankara le sait, mais il ne bouge pas. Un mois avant sa mort, en septembre 87, l'intellectuel suisse Jean Ziegler le rencontre, Sankara, à Addis Abeba, en Éthiopie, où l'on vient de fêter la proclamation de la République populaire d'Éthiopie. Et voici comment Ziegler relate leur dernière rencontre.
Sankara avait-il dit, par une étrange prémonition, pressenti son assassinat. Dans sa résidence, le soir, nous discutions du destin du Che Guevara, exécuté 20 ans auparavant dans les montagnes de Bolivie. Tout à coup, il me demanda, quel âge avait le Che au moment de mourir? 39 ans et 8 mois, répondis-je. Et Sankara, songeur de murmurer, atteindrai-je jamais cet âge-là? J'en doute.
Je vous souhaite une très bonne soirée. La patrie ou la mort nous vaincront.
Il est 19h dans les studios de Radio Burkina.
Proclamation. Le Front populaire, regroupant les forces patriotiques, décide de mettre fin en ce jour 15 octobre au pouvoir autocratique de Thomas Sankara, d'arrêter le processus de restauration néocoloniale entrepris par ce traître à la révolution d'août. À la faveur des méandres de l'histoire, cet autocrate s'est hissé à la tête de notre révolution pour mieux l'étouffer de l'intérieur. Cette haute trahison s'est illustrée par le bafouement de tous les principes organisationnels, les reniements divers aux nobles objectifs de la révolution démocratique et populaire, la personnalisation du pouvoir, la vision mystique quant aux solutions à apporter aux problèmes concrets des masses, toutes choses qui ont engendré la démobilisation au sein du peuple militant. Pour arrêter cette dégénérescence de notre processus révolutionnaire, le Front populaire lance un appel à toutes les organisations patriotiques et révolutionnaires pour qu'elles prennent part au processus de rectification entrepris en ce jour. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le Front populaire, le camarade capitaine Blaise Compaoré.
Jebale tuluna mama Awara mini Tuma Sankara tuluna Burkina kabeka sila Demiseni makorobasi madovana Awara mini Tuma Sankara tuluna
Ben c'est douloureux pour moi ce qui s'est passé parce que, comme vous le savez, Thomas Sankara, c'est un ami. Mais j'aime aussi mon peuple, plus que tout. Et je dois reprocher à Thomas Sankara, bien sûr, d'avoir, par moments, méprisé justement les intérêts de ce peuple, d'avoir surtout nié la liberté de ce peuple. Je lui reproche aussi d'avoir à un moment donné pensé que ma liquidation physique allait lui permettre de poursuivre ce que lui il considérait comme un objectif fondamental, à savoir asseoir son pouvoir personnel.
Kina kapika sila dimseni makorosi matovana Awara mini Toma Sankara tununa Awara mini va Awara mini Toma Sankara tununa Awara mini bamso Awara mini agime mune jongo tuna mama awara mini Toma Sankara tuna
Thomas Sankara a disparu et au Burkina, vieux et jeunes le pleurent, chantait le Sénégalais Cheikh Lo. Le 15 octobre 1987, Sankara et plusieurs de ses proches collaborateurs sont assassinés alors qu'ils tenaient une réunion. La garde rapprochée de Blaise Compaoré est dans le coup. Blaise Compaoré aussi, qui a décidé de rectifier Sankara en même temps que la révolution. La proclamation qu'il fait à la radio est déjà une signature, tout comme ses justifications dans les jours qui suivent.
Oui, les défenseurs de Blaise Compaoré ont toujours dit que, oui, ces hommes étaient partis arrêter Thomas Sankara et qu'ils avaient tiré pour riposter dans un état de prétendue légitime défense. Alors, pourquoi Blaise a voulu arrêter Sankara ? Vous l'avez entendu dans sa propre bouche. Pour ne pas, dit-il, que Sankara ne se débarrasse de lui. Évidemment, la version de Sankara, on ne l'a pas, il n'est plus là pour parler. Pas plus qu'un certain nombre de témoins qui, après de longues années d'exil, sont parfois rentrés au Burkina, mais restent muets comme des tombes.
Eh oui, car la tombe de Sankara, elle aussi, est muette. Enterrée à la hâte, la nuit même de son assassinat, dans le cimetière du quartier périphérique de Daounioué, on ne sait même pas si c'est bien le corps du défunt capitaine qui repose là. La famille a demandé à la justice d'ordonner des tests d'ADN sur la dépouille du capitaine. Pour l'heure,
Le tribunal de grande instance de Ouaga s'est déclaré incompétent et la veuve Sankara et ses enfants ont fait appel.
Et Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, et qui semble avoir envie d'ailleurs de rempiler, ne tient évidemment pas à réveiller le fantôme de Thomas Sankara.
Tu l'as dit Vlad, il y a par exemple le comité Thomas Sankara de Montpellier, le CTSM, qui tous les ans organise des journées en mémoire du martyr.
En tout cas, ce fantôme hante encore les consciences de bon nombre d'Africains, oui, parce que Sankara incarnait l'espoir tangible d'une Afrique plus libre et plus juste. Faire de la politique, c'était donc ça.
La patrie ou la mort ?
Nous vaincrons.
La patrie ou la mort ?
Nous vaincrons.
Adieu donc Sankara et bonjour à notre nièce Hortense Vol qui nous rejoint dans l'Afrique enchantée.
La nièce arrive dans l'Afrique enchantée avec sa chronique en djaé.
La nièce.
Yeah, salut les tontons, bonjour
ça
à
va
tous. Bah ouais.
Quel bon vent t'amène.
Quel bon vent m'amène, je vais te le dire tout de suite. Ça s'appelle BKO Quintet, un groupe franco-malien singulier, sacrément talentueux, dont le premier album Bamako Today sera dès demain dans les bacs. Pour la première fois, il réunit deux mondes opposés, deux univers parallèles, celui du Djeline Goni et du Donso Ngoni. Grosso modo, la guitare des griots et le luth à six cordes des chasseurs Bambara. Une association mystique et électrique pour un style unique, jamais exploité dans le paysage sonore des musiques maliennes. Attention, Dono Kale, l'oiseau arrive et avec lui une initiation à la transe. Voilà un véritable hymne à la fête signé BKO Quintet. Un groupe qui s'est formé à Medinakoura, un quartier populaire de Bamako, à l'initiative d'Ibrahim Assar, maître tambour reconnu dans le monde et Djembe Fola respecté au Mali, et d'Emeric Kroll, un percussionniste français qui se forme depuis plus de 10 ans à ses côtés. Ibrahim a eu l'idée de confronter le Djeline Goni, la guitare des griots, et le Donso Ngoni, la lutte des chasseurs, pour faire une musique commune. Emeric et sa batterie traficoté a mis en forme le son. Le maître et l'élève ont conjugué leurs expériences pour réunir en un seul groupe différents styles de musique traditionnelle malienne. Résultat, le chanteur des rites Donso rencontre le griot, le tambour du maître se mêle aux influences rythmiques occidentales et la basse du Donso Ngoni renforce les sonorités cristallines du Djeline Goni. Deux cordophones qu'Emeric Kroll est venu amplifier, tout comme il a passé sur certains morceaux la voix de Fassara Sako au filtre d'un mégaphone pour recréer l'ambiance saturée des maquis. En malinqué, le griot Fassara Sako dit la tristesse qui se fait sentir lorsqu'une personne attendue ne se présente pas et à l'inverse, la joie qui s'exprime lorsque cette même personne arrive enfin. Par ses arrangements, Bamako Quintet remet au goût du jour certaines louanges de griot, mais aussi des chants séculaires, animistes et populaires bambara. Le titre Donsoulou, par exemple, parle de la fuite des animaux suite à la déforestation et du manque de gibier pour subvenir aux besoins des villages de brousse. Et quand cette fuite vous est raconté par un invité de choix, Pierce Faccini, qui était il y a peu dans ce studio à nos côtés pour son disque avec Vincent Segal. Et bien là, les tontons, je reste sans voix.
Skies and mountain streams. Am I the hunter or am I the prey? Are you my king and I your prey?
Les rythmiques envoûtantes du luth à six cordes de Nfali Diakité, les envolées psychées d'une Djeline Goni d'Abdoulaye Koné, l'ensemble percussif d'Ibrahima Sahar et d'Emery Kroll, la voix poignante de Fassara Sako, tous ces talents n'étaient pas destinés à se rencontrer. Ancrés dans un patrimoine séculaire, leur mariage inédit donne pourtant naissance à un afro-groove résolument moderne et urbain que j'ai hâte de pouvoir savourer aussi en live.
Voilà.
Pour ne rien gâter, l'album est assorti d'un DVD Bamako On Air, un film tourné à Bamako donc en avril 2013, alors que le pays est en état d'urgence et qui, de la colline des Forgerons au Trans-Donceau, raconte en musique l'histoire du groupe Bamako Quintet. Si par mail vous me dites qui a réalisé ce film, il se pourrait bien que l'album Bamako Today débarque bientôt dans votre boîte aux lettres. La réponse et toutes les dates de concert du groupe sont bien sûr vieux père, grand père sur le www.franceinter.fr.
Merci, la mienne.
Chers auditeurs, on va devoir vous demander la route.
Acceptez de nous l'accorder dans cette émission la plus humaine et la plus intègre possible, il y avait...
La Reine des Sables, colonne de la Révolution, Michel Soulier, réalisatrice de l'Afrique Enchantée.
Avec elle, membre de l'orchestre des petits chanteurs au point levé, Patrick Henry et Kevin Pelot, également technicien diplômé.
La nièce Hortense Vol, reine du Crédit Agricole, et notre beau-frère Jean-Baptiste Verret, attaché de production toujours au taquet.
Voilà, la semaine prochaine, on vous emmène dans les plis du temps où les dieux malins s'amusent avec nos destins. Heureusement, pour les comprendre, en Afrique, il y a des devins, et c'est d'eux dont on parlera dans l'émission.
N'oubliez pas, chers auditeurs, dans la joie comme dans les galères, on est ensemble.
À la semaine prochaine.
Voilà.